sinistre nuit de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Mes yeux sortaient de leurs orbites en contemplant la créature. J'avais entrepris de mettre au point un homme de stature gigantesque. Il avait plus ou moins 8 pieds de haut et sa carrure était en proportion de sa taille. Pendant plusieurs mois, j'avais cherché et préparé mon matériel. Les salles de dissection et les abattoirs m'avaient fourni la plupart des matériaux. À présent, avec une anxiété qui me rapprochait de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle d'existence dans cette matière inerte qui gisait à mes pieds. Il était 1 heure du matin et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie allait s'éteindre lorsque tout à coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune stupide de la créature. Elle se mit à respirer et des mouvements convulsifs lui agitèrent les membres. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige? Comment pourrais-je dépeindre cet être horrible dont la création m'avait coûté tant de peine et tant de soin? Ses membres étaient proportionnés et les traits que je lui donnais, quelques beautés. Quelques beautés, grand Dieu! Sa peau jaunâtre tendue à l'extrême dissimulait à peine ses muscles et ses artères. Sa longue chevelure était d'un noir brillant et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ces avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides dont la couleur semblait presque la même que celle blême des orbites. Il avait la peau ridée et les lèvres noires et minces. J'avais pendant 2 ans travaillé sans répit pour donner la vie à un corps inanimé. Et pour cela, j'avais négligé mon repos et ma santé. Ce but, j'avais cherché à l'atteindre avec une ardeur immodérée. Mais maintenant que j'y étais parvenu, la beauté de mon rêve s'évanouissait et j'avais le cœur rempli d'épouvante et de dégoût. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je sortis de mon laboratoire et longtemps je tournais en rond dans ma chambre à coucher sans trouver le sommeil. Enfin, la fatigue l'emporta et je me jetai tout habillé sur mon lit, mais pour être assailli par les rêves les plus terribles. Je crus voir Elisabeth, débordante de santé, se promener dans les rues d'Ingolstadt. Charmé et surpris, je l'enlaçai, mais alors que je posais mes lèvres sur les siennes, elle devint livide, comme la mort. Ses traits se décomposèrent et j'eus l'impression que je tenais entre mes bras le cadavre de ma mère. Le linceul l'enveloppait et à travers les plis, je vis grouiller les vers de la tombe. Je me réveillai avec horreur. Une sueur glacée me couvrait le front, mes dents claquaient et j'étais saisi de convulsions. La lumière jaunâtre de la lune se glissa à travers les croisées de la fenêtre et j'aperçus le malheureux. Le misérable monstre que j'avais créé. Ses yeux, si je puis les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'entrouvrirent et il fit entendre des sons inarticulés tout en grimaçant. Peut-être parlait-il, mais moi je ne l'entendis pas. Une de ses mains était tendue vers moi, comme pour me retenir. Oh, quel mortel pourrait supporter l'horreur d'une telle situation? Une momie à qui on rendrait l'âme ne pourrait pas être aussi hideuse que ce misérable. Dante lui-même n'aurait pu imaginer un tel monstre. Je pris la fuite et me précipitai vers les escaliers. Nous sommes le 3 juin 1816 dans la villa Diodati sur les bords du lac Léman en Suisse. Il est 23h30. La jeune Marie Godwin repose les feuillets noircis d'encre qu'elle tenait entre ses mains. Elle lève les yeux et contemple l'assemblée muette qui se tient devant elle et la fixe. Pendant quelques secondes, pas un murmure, pas une respiration ne vient troubler le point final de sa lecture. On n'entend plus que la tempête qui se déchaîne dehors. La pluie claque sur les feuilles des arbres qui entourent la villa et le vent émet un mugissement lugubre en venant s'engouffrer dans la cheminée du salon. Une ambiance toute propice à la lecture de ce récit macabre. Il est alors 23h30 et c'est l'heure H de mon récit. Marie est incroyablement belle dans sa robe mousseline blanche. Ses longs cheveux bruns font ressortir sa peau diaphane et ses grands yeux sombres émettent une lueur étrange dans l'obscurité du grand salon, que seules quelques chandelles viennent perturber. En cet instant, elle ressemble à un fantôme. Elle est tout aussi troublante que la lecture qu'elle vient de donner. Mais à tout juste 19 ans, Marie ne réalise pas l'aura mystérieuse qui émane d'elle. Elle esquisse un sourire timide devant cet auditoire saisi de stupeur, dont les yeux sortent de leurs orbites un peu comme le créateur de son monstre. Et puis, rompant le silence, elle s'excuse de sa voix douce. Oh, je n'ai écrit que cela pour le moment. Oh, quel talent, ma chère, quel talent ! Rugit soudain Lord George Byron, dont le visage s'est ranimé. Autour de lui, le salon semble aussi reprendre des couleurs. Étrangement, la lueur des chandelles paraît plus forte. Et c'est parce qu'une nouvelle étoile est née. Byron se tourne vers ses hôtes, dont les visages reprennent vie à leur tour, et tous se mettent à applaudir à tout rompre. Non, Byron est toujours exubérant, certes, exalté même, mais cette fois, il est sincèrement enthousiaste. Et il faut l'admettre, agréablement surpris par Marie, l'auteur talentueux qui l'a convié dans sa villa, c'est Percy Shelley, et non cette petite créature étrange qui l'accompagne. Qui est Marie Godwin? Cela fait 2 semaines qu'il l'observe, la taquine, la provoque même, mais qu'il ne parvient pas à cerner sa personnalité. Derrière ses belles manières de petite fille bien née, la sagesse et l'intelligence de ses propos, son calme olympien, Marie est le symbole même de l'anticonformisme. Il connaît son histoire. Son père est un célèbre romancier et un philosophe radicaliste. Sa mère, qui est morte quelques jours après sa naissance, était une pionnière du féminisme anglais. Marie a donc grandi au milieu des livres et des salons philosophiques tenus par son père dans leur maison. C'est sans doute là qu'elle a rencontré le jeune et beau poète Percy Shelley. On dit qu'ils sont tombés fous amoureux, mais que le père de Marie s'est fortement opposé à leur relation. Ils se sont donc enfuis, laissant derrière eux la jeune épouse, enceinte de Percy, et ses 2 enfants. Aujourd'hui, les sulfureux amants ont un petit garçon, William, et Marie se fait appeler illégitimement Marie Shelley. « Oh, ma chère, vous devriez écrire !» poursuit Byron, extatique. « Vous nous avez tous saisis ce soir, oh, que dis-je ? Vous nous avez hantés !» Marie est flattée. On ne reçoit pas tous les jours les encouragements du célèbre Lord Byron, même s'il est l'une des personnalités les plus contestées d'Angleterre. Rappelons-le, si le grand poète vit en reclus dans une grande villa humide en Suisse, c'est parce qu'il a été chassé de son pays. On l'accuse d'inceste avec sa sœur et de bisexualité. Il n'en est pas moins une figure littéraire reconnue qui, déjà de son vivant, marque les esprits et bouleverse les courants littéraires. Marie ne s'attendait pas à ce que ces quelques lignes, griffonnées en quelques jours sur son cahier, retiennent à ce point l'admiration de son auditoire. Cela fait des années qu'elle écrit, mais des pensées, de petites nouvelles, qu'elle garde évidemment pour elle. Quand on grandit au milieu de philosophes, de poètes et de romanciers, il faut être talentueux ou savoir rester modeste. Aussi n'a-t-elle jamais vraiment osé se lancer. Et puis, il y a quelques jours, après une énième journée de pluie, ce fougueux Lord Byron a lancé un défi littéraire. Il faut dire que nos amis vivent un été froid et humide au bord du lac Léman. Ils passent leur journée enfermés dans la villa à lire des romans fantastiques à la mode comme Fantasmagoria. Et à la nuit tombée, ils s'amusent à se faire peur en se racontant des histoires de revenants. Ou ils écoutent le docteur John Polidori, médecin personnel de Byron, parler d'expériences scientifiques et anatomiques à vous glacer le sang. Alors, quitte à être plongé dans cette ambiance humide et mortelle, Lord Byron s'exclame un soir « Oh les amis, à ne plus mettre le nez dehors, je commence à m'ennuyer, à périr. Je vous propose donc de mettre à profit ce séjour sinistre pour faire un petit jeu. Nous allons chacun écrire une histoire à faire peur, une histoire de fantôme. Et celui qui écrira l'histoire la plus terrifiante gagnera le défi. » Ce soir-là, Byron ignore évidemment que son défi va donner naissance à 2 chefs-d'œuvre, 2 précurseurs de la littérature de science-fiction. Au début, Marie ne sait pas quoi écrire. Percy et Byron, les vrais écrivains, sont évidemment bien plus inspirés qu'elle. Sous l'influence de Fantasmagoria, ils échangent leurs idées sur des histoires de démons, de fantômes et de morts vivants. Mais elle, Mary Godwin, jeune maman insignifiante et timide, que va-t-elle écrire? Eh bien, c'est dans une discussion avec le brave docteur Polidori, le médecin de Byron, que Mary va trouver l'inspiration. Par une soirée tout aussi sinistre que les précédentes, dans le grand salon humide de la Villa Diodati, John Polidori se lance dans une explication passionnée des expériences d'un certain Luigi Galvani. Le physicien et professeur d'anatomie italien est parvenu à contracter les cuisses d'une grenouille morte en lui administrant une décharge électrique. Polidori raconte aussi les spéculations d'Erasmus Darwin sur la possibilité de ranimer la manière morte grâce à des impulsions électriques. Mary écoute, bouleversée. Mais si son regard est brillant et fiévreux, ce n'est pas d'épouvante, mais de fascination. Depuis son plus jeune âge, il semblerait que la douce Mary entretienne un rapport étrange avec la mort. Elle se croit responsable de la mort de sa mère, survenue quelques jours après sa naissance. Elle voue depuis un culte étrange à la tombe de cette dernière, faisant du cimetière de Saint-Pancras sa promenade préférée. Plus tard, c'est devant la tombe de sa mère qu'elle donne secrètement rendez-vous à Percy Shelley. On raconte même que c'est sur la pierre tombale qu'elle lui a offert sa virginité. Elle s'enfuit ensuite avec Percy et elle tombe enceinte. Mais leur petite fille naît prématurée de 2 mois et ne survit pas. Mary tombe alors dans une grave dépression. Les visions de son bébé mort la hantent. Aujourd'hui, le couple a un petit garçon, William, qui a su mettre un baume sur sa douleur, mais elle continue de faire d'atroces cauchemars. On peut ainsi dire que la grande faucheuse a toujours tenu compagnie à Mary. Au gré des étapes importantes de sa vie, elles ont tissé un lien étroit, fait de tristesse, de désespoir, mais aussi d'attirance et d'inspiration. Les révélations du docteur Polidori sur la possibilité d'un retour de la mort à la vie vont donc trouver un fort écho chez Mary. Ce soir-là, après s'être excusée auprès des hôtes de la Villa Diodati, sans doute après avoir ingurgité du laudanum, supposé l'aider à dormir, Mary va faire un rêve étrange. Elle racontera ceci. Je vis l'étudiant blême des arts impies s'agenouiller à côté de la chose qu'il avait créée. Je vis le fantasme hideux d'un homme se lever, puis, par le travail de quelques machines puissantes, montrer des signes de vie et bouger en un mouvement malaisé et à moitié vivant. Il faut que cela soit effrayant, car l'effet de toute entreprise humaine, se moquant du mécanisme admirable du créateur du monde, ne saurait qu'être effrayant au plus haut point. Mary se réveille en sueur, épouvantée, mais transportée. Elle enfile son peignoir de soie et s'assied devant son petit secrétaire d'acajou. Elle allume une chandelle, puis, brûlée par l'inspiration, commence à écrire frénétiquement ce qu'elle pensait être au début une nouvelle. Quelques heures plus tard, elle pose enfin sa plume. Il fait jour à présent, et elle souffle sur la chandelle à moitié consumée. Son premier réflexe est de trouver Percy pour lui faire lire son travail. Percy se plonge dans le cahier de Mary, silencieux, happé par le récit inédit et macabre. Quand il lève à nouveau les yeux vers Mary, son regard est admiratif. L'histoire est brillante et le style excellent. On dira bien des choses de Percy. Fils de baronnet, ayant fait ses études au prestigieux collège d'Eton, puis à l'université d'Oxford, son comportement provocateur a pourtant fait de lui un paria et lui a valu un renvoi de l'université. Scandaleusement athée, végétarien pour raison éthique, vivant hors des conventions, ses contemporains disaient de lui qu'il était le diable. Il a été admiré pour ses écrits révolutionnaires et libertaires, mais surtout poursuivi par les autorités et contraint de fuir toute sa vie. Devenu adolescent, il séduisait les jeunes filles et les femmes comme on cueille des fleurs des champs. Mari infidèle, père absent. Il a abandonné sa femme Mariette, encore enceinte, et son enfant pour vivre avec Mary, enceinte, elle aussi. Adepte de l'amour libre, Percy a également été un amant volage et immoral, allant jusqu'à tromper Mary avec la demi-sœur de celle-ci. Mais en dépit de tout ce qu'on a pu lui reprocher, Percy Shelley s'est révélé être un compagnon intellectuellement stimulant, ouvert, désintéressé et de bons conseils. Aussi, quand sa jeune compagne lui présente l'ébauche de sa première nouvelle, il se montre dithyrambique et encourage chaleureusement sa jeune amante à poursuivre son récit et sa carrière. Byron aussi a senti. Byron a compris. Cette Mary Godwin ou Mary Shelley, peu importe, cette femme aux airs de petite fille ingénue sera un grand écrivain et fera parler d'elle bien davantage que son Percy Shelley, pourtant déjà célèbre. Et il a visé juste en cette soirée de 1816 sur le lac Léman. Car cette nouvelle effrayante, rédigée à la hâte par une jeune fille de 19 ans, est l'ébauche de ce qui deviendra bientôt un chef-d'œuvre de la littérature gothique anglaise du 19e siècle. Mieux, on dit aujourd'hui qu'il est le premier livre de science-fiction au monde à avoir été écrit. Le roman de Frankenstein, où le Prométhée moderne est né. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Lord Byron ne se doutait pas que deux chefs-d'œuvre naîtraient de ce concours littéraire macabre lancé un soir de pluie dans la Villa Diodati. Aujourd'hui, nous connaissons tous l'histoire du docteur Frankenstein. Mais ce que beaucoup ignorent, en revanche, c'est qu'un deuxième chef-d'œuvre va naître de ce séjour. Et c'est le docteur Polidori qui en sera l'auteur. Enfin, pas complètement. George Byron annonce un soir: j'ai trouvé mon histoire, les amis. Je vais écrire une nouvelle sur un vampire. Lord Byron se tait, laissant s'installer le suspense et l'interrogation chez ses hôtes. Percy Shelley intervient enfin, perplexe. « De quoi parlez-vous donc, mon ami? Qu'est-ce qu'un vampire ?»« Eh bien, j'ai découvert dans mes livres quelques légendes intéressantes issues du folklore oriental. Voyez-vous, le vampire est tout à fait fascinant. Il s'agit d'une créature mi-homme, mi-démon, qui vit la nuit et dort le jour car elle fuit la lumière. Et pour se nourrir, elle boit le sang de ses victimes. » Ravi, Byron sent ce léger courant d'air se glisser dans le cou de ses invités. Ah, il a produit son petit effet. Pourtant, il ne terminera pas cette nouvelle. Marie lui a-t-elle volé la vedette avec son histoire de monstre fabriqué à partir de cadavres? En tout cas, cette histoire de vampire aurait pu définitivement tomber dans l'oubli si le docteur Polidori, en bon secrétaire, n'avait pas conservé les feuillets du poète et terminé le texte. Son héros, Lord Ruthven, sera considéré comme le premier vampire tel que nous le connaissons aujourd'hui dans une œuvre de fiction. Lord Ruthven est séduisant, magnétique, dédaigneux, manipulateur. Bizarrement, sa description correspond à un personnage que nous connaissons bien, Lord George Byron lui-même. Une petite revanche bien méritée pour ce pauvre Polidori, souffre-douleur constamment rabaissé par son patient. Et pour comble de l'ironie, l'œuvre de John Polidori sera encensée par la critique et préfigure même le célèbre Dracula de Bram Stoker qui paraîtra un siècle plus tard. Ainsi, le grand Byron sera-t-il doublement perdant à son propre défi d'histoire de fantôme.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Mary Shelley. Une histoire à vous glacer le sang. Un laboratoire rempli d'organes humains et d'animaux. Une créature morte qui revient à la vie. Je vous raconte ce moment où une jeune fille de 18 ans a tout réuni pour créer un des plus grands romans de science-fiction de tous les temps. Frankenstein ou le Prométhée moderne. Beaucoup croient encore qu'il s'agit d'un monstre bête et hideux de 2 mètres de haut, au teint vert-gris et au front couvert de grosses cicatrices. Or, il n'en est rien. D'abord, Victor Frankenstein est un scientifique, le docteur Frankenstein, et il n'est autre que le créateur du monstre sans nom que nous connaissons tous. Quant à l'histoire de son abominable progéniture, Vous seriez surpris d'apprendre qu'avant d'être un monstre fait de cadavres récupérés dans des salles de dissection et de devenir un meurtrier vengeur, il est un être sensible, intelligent, tout d'abord bienveillant et qui ne demande qu'à aimer et à être aimé. Bref, un être humain. J'aimerais vous raconter sa triste histoire et rétablir ainsi quelques vérités. Tout commence avec ce projet fou et terrifiant d'un savant suisse, le jeune Victor Frankenstein. Victor, jeune homme sympathique et brillant, veut créer un être humain parfait, beau, bon, un être suprême. Mais à la seconde où il donne vie à sa créature, Victor est pris de regret. Il réalise avoir engendré une aberration, un être contre nature. Il fuit sous les yeux implorants et terrifiés du monstre qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Le monstre est livré à lui-même et il va se heurter cruellement au regard et à la violence des hommes. Petit à petit, au gré des persécutions et des coups de bâton, il prend conscience de sa difformité, de son aspect repoussant et effrayant. Il trouve un jour un abri dans la dépendance abandonnée d'une petite maison habitée par un brave aveugle et ses deux enfants. En les observant pendant des mois, il apprend à parler. Il réalise aussi que l'homme peut être charitable, gentil. Empli de bienveillance à l'égard de cette famille pauvre qui le touche, il leur prodigue 1000 attentions qui les aideront à affronter l'hiver. Mais alors qu'il cherche un jour à approcher le vieillard aveugle, il est découvert par les deux enfants qui le chassent violemment.